Pour commencer cette émission, un focus sur l'exposition événement de l'année, sinon l'exposition de la décennie, à voir à Paris cet automne. Elle est intitulée sobrement Léonard de Vinci 1452-1519. Ils sont tous là, ces géants. Le Saint Jean-Baptiste, l'un des plus beaux tableaux de Leonardo, plus magnifique que jamais depuis sa restauration. La Sainte Anne, le Saint Jérôme pénitent, toujours inachevé. La Belle Ferronnière, la Vierge Rocher, les carnets sublimes et qu'on voit trop rarement. Les dessins, d'ailleurs une étude magnifique pour un Saint Sébastien et tant d'autres. Présent aussi au rendez-vous, j'allais dire au garde à vous, l'homme de Vitruve. Il est là lui-même. En personne. Il est rarement montré, même à Venise. Il ne restera visible que quelques semaines à Paris et pas toute la durée de l'exposition. Rien que pour ce dessin, la plume, encre et la vie de 34 cm sur 25 dans le symbole, hein, vous savez, un homme idéal parfaitement proportionné dans un cercle et un carré que tout le monde connaît et qui résume à lui seul l'histoire de la Renaissance, le rationalisme et l'humanisme. Rien que pour ce dessin, donc, le déplacement vaut le détour. Surtout qu'on ne pourra peut-être pas le revoir de toute notre vie. Les œuvres viennent de partout, de Venise donc, mais aussi de Milan, des musées du Vatican à Rome, ou encore des collections privées de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, de la National Gallery à Washington ou du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et puis même d'Arabie Saoudite, ou d'ailleurs des Émirats Arabes Unis, on ne sait pas trop, pour le Salvator Mundi, œuvre sans nul doute sortie de l'atelier de Léonard de Vinci, mais qui n'a peut-être pas été réalisée de sa main. C'est d'ailleurs ce que dit la notice dans l'exposition. Il est attribué à l'atelier, mais non pas à Leonardo. En tout cas, l'œuvre a été achetée 382 millions d'euros en 2017 par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Il rejoint Paris pour cette exposition. Seul manque à l'appel deux des plus beaux tableaux du monde. La scène, bien sûr, qui reste sur les murs du réfectoire d'une église de Milan, faute de pouvoir être décrochée. C'est une peinture murale. Et la Joconde, qui restait, elle, dans la salle, dans sa salle, elle-même restaurée, la salle des États au Louvre, où on peut la découvrir dans son tout nouveau écrin. Au XVIIIe siècle, les écrivains et les aristocrates français voyageaient pour aller voir les œuvres dans les musées étrangers. On appelait ça le voyage d'art et c'était un genre en lui-même. Aujourd'hui, c'est Leonardo da Vinci qui vient à nous au Louvre. C'est un événement, bien sûr, un progrès. C'est aussi un progrès technique car grâce à la réflectographie infrarouge, la genèse des œuvres du peintre apparaît au grand jour. Au Louvre, on peut voir les dessins originaux au carbone ainsi révélés sous les peintures. On suit sa pensée, on suit son trait, les différentes phases de son travail. Photographie sous ultraviolet, spectrométrie de fluorescence des rayons X, toutes les techniques sont bonnes pour entrer en conversation avec de Vinci et déchiffrer ainsi ses secrets. On peut même en 3D, via la réalité augmentée, croiser Mona Lisa et survoler les monts qui forment le décor naturel de la Joconde. Tout ça nous aide à comprendre le peintre.
Pour lui, la peinture, ce n'est pas seulement une copie du monde, c'est une compréhension scientifique et intime de la nature, de l'être humain et de l'ensemble du monde. C'est quelqu'un qui ne s'est pas contenté de l'extériorité des choses. Plus Léonard avance, plus il se concentre sur l'expression du visage qui doit, pour le spectateur, donner une sorte de vibration psychologique. Toute la force de l'image passe à travers l'expression du visage.
Voilà, un des conservateurs généraux du Louvre qui expliquait ce qu'ils ont fait et comment ils accompagnent également ces œuvres. Dire que tous ces tableaux français sont arrivés à dos de mule ou portés sous les bras par Leonardo lui-même en personne à travers les Alpes parce qu'un roi de France, François Ier, l'avait invité à rejoindre notre pays. Tout le mystère de l'art réside dans cette aventure singulière. C'est même trop facile de dire que l'exposition Vinci au Louvre est magnifique. Elle est juste unique. Léonard de Vinci au Louvre jusqu'au 24 février, uniquement sur réservation en ligne. Pour aller plus loin sur Léonard de Vinci, je recommande une biographie, celle de Walter Isaacson, parue récemment en français, un livre accessible et pédagogique, magnifiquement illustré. Voilà, France Culture, 18h21, dans l'actualité de la semaine après Léonard de Vinci, eh bien, il y a aussi l'exposition Zoé Sfez qui se trouve, elle, au Grand Palais, et là c'est El Greco.
Voilà, le Grand Palais qui accueille la première grande rétrospective consacrée en France à ce génie crétois. On est très fiers à France Culture d'en être partenaire. C'est très intéressant d'en parler et qu'elle ouvre en parallèle, en même temps que cette exposition de Vinci, parce que le Greco c'est un peu l'anti-Léonard de Vinci, et pourtant son génie, pour moi et pour bien d'autres, l'égal presque. On a une exposition avec 75 œuvres du maître grec, de son vrai nom Tominikos Theotokopoulos. Il est né en 1541 en Crète, donc, et il est mort en 1614 en Espagne. Ce Gréco-là, c'est le génie chéri absolu de Picasso, de Breton, de Cocteau. Et c'est l'anti-Léonard de Vinci. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a été complètement oublié. Alors, ces 75 tableaux qu'on peut voir au Grand Palais, c'est véritablement quasiment, c'est inédit en France, c'est presque inédit dans le monde. Il n'y a pas l'enterrement du comte d'Orgaz, qui est probablement la toile la plus célèbre du Gréco, qui est restée dans son église à Tolède. Le musée du Prado de Madrid a refusé de jouer le jeu. Ça fait partie des grands débats et des grandes contrariétés diplomatiques liées à cette exposition. En revanche, on peut voir toutes les grandes toiles qui sont présentes aux États-Unis. Le Met de New York a prêté le portrait du cardinal de Nino de Guevara, qu'on voit très peu en France et qui est absolument extraordinaire. On a beaucoup de toiles qui viennent de Cleveland aussi. Pourquoi est-ce que je dis que le Gréco c'est un anti-Léonard ? Léonard, c'est parce que cet homme qui naît en Grèce est formé aux icônes byzantines, il vient d'une tradition extrêmement classique. Il part en Italie, on sait très peu de choses de sa vie, il s'installe d'abord à Venise, puis il s'installe à Rome, et comme il ne parle pas la langue et qu'il frappe pas aux bonnes portes, et qu'il est trop original, et qu'il est sans doute trop arrogant, eh bien, finalement, cet homme n'arrive pas à s'imposer en Italie. Il est probablement d'ailleurs chassé du parler farnèse, et on voit finalement, l'exposition le montre très bien, en revanche, son style d'iconiste, s'enrichir de tout le travail des coloristes italiens. C'est très émouvant de voir comment, par exemple, dans certaines de ses toiles, il peint Raphaël et Michel-Ange comme un élève surdoué qui a envie d'égaler des maîtres qui, pour le moment, ne le regardent pas. C'est très intéressant aussi, pourquoi ? Parce que Gréco est un très mauvais dessinateur. On a très peu de dessins de lui, on en a 7, et on peut en voir 2 dans cette exposition. C'est un anti-Léonard de ce point de vue-là, dessin très peu intéressant. Tout se joue, en fait, chez lui par la couleur. On a aussi des velléités d'architecture chez cet homme. Pourtant, on ne connaît rien de travail d'architecture de lui. Il y a un très émouvant traité d'architecture de Vitruve, on parlait de lui, qui est annoté de sa main et qui est visible. On sent qu'il a voulu travailler dessus, mais c'est absolument pas ce qui s'est passé. Et c'est finalement en Espagne, précisément à Tolède, que vers la trentaine, quarantaine, donc c'est tard, son génie peut s'épanouir. Il est reconnu comme un excellent portraitiste. On connaît peu les portraits de Gréco en France, notamment parce qu'on l'a dit, parce qu'ils sont essentiellement en Espagne et aux États-Unis. Et puis, ses œuvres religieuses, à partir de 1570, il multiplie tous ces chefs-d'œuvre qu'on connaît un peu mieux. Il affirme son style, il se radicalise complètement. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est ce que l'exposition permet de voir. Par exemple, on a toute une série de toiles de Jésus chassant les marchands du temple, de sa vingtaine jusqu'à ses 75 ans. Le thème revient et son style vraiment s'affirme. Et face à la toute dernière toile de cette exposition, la vision de Saint Jean, en fait, on a du mal à croire que cet homme est un homme qui vivait à la Renaissance. On se croirait devant une toile du XXe siècle. L'œuvre date pourtant de 1614. En fait, quand il meurt, Gréco, Caravage déjà est mort depuis 4 ans, et en fait, il n'a plus aucune communauté de style avec aucun des peintres qui travaillent à cette époque-là. C'est déjà l'art baroque. On lit sur le texte de l'exposition, on a du mal à croire qu'une telle peinture soit en 1614 encore possible. Mais on a presque envie de dire, on a quand même du mal à croire que ce type de peinture soit déjà possible à cette époque-là. Cette toile, elle dialogue avec les œuvres de Picasso, de Chirico ou de Dali, qui, en redécouvrant ce maître au XIXe siècle, en ont fait finalement leur génie fétiche, leur génie caché. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la ville où il a rayonné, c'est la ville de Tolède, une ville de Tolède qui, en fait, comme lui, va s'isoler peu à peu, et c'est Madrid qui l'emportera, voilà, En dépit de tout ça, le Gréco est peut-être le dernier grand maître de la Renaissance, probablement le premier grand maître du siècle d'or. Une exposition, donc, pareil, je dirais la même chose que vous, cher Frédéric. Elle n'est pas unique, elle est absolument exceptionnelle.
Je disais l'inverse, exceptionnelle, mais pas unique. Mais unique.
À peu près.
On est d'accord.
Même idée.
Allez.
Même chose, et je pense qu'on va devoir conclure là-dessus, les couleurs, la force de ces œuvres s'imposent, moi j'en ai presque pleuré, et ce, en dépit de la quantité astronomique de visiteurs qui s'enchaînent dans cette exposition, en dépit du système de réservation en ligne qui a été aussi mis en place au Grand Palais pour cette exposition exceptionnelle.
D'où ça vient d'ailleurs, cette mise en place de l'obligation de réserver désormais?
Alors, c'est une obligation qui, en fait, ce système-là, bien avant même l'avènement d'Internet, il a commencé à être mis en place en Égypte, dans la Vallée des Rois, dans des tombes qu'on devait limiter le nombre de visiteurs, notamment la tombe de Nefertari, qui entre-temps a été complètement fermée au public. Donc c'est les premières velléités, à l'époque ça se faisait par téléphone, de limiter le nombre de visiteurs et de les répartir sur une même journée. Ensuite, évidemment, ça s'est imposé à Rome, où vous savez que pour le Vatican, vous devez faire la même chose, la chapelle Sixtine, les offices de la même manière, et le Louvre a décidé cette année de l'appliquer sur ses grandes expositions, mais de l'appliquer aussi à terme pour la visite du musée, c'est-à-dire qu'à partir de novembre, donc à partir du mois prochain, même pour visiter le musée, même si vous êtes porteur du Museum Pass, eh bien vous êtes obligé de réserver. Pourquoi ? Parce que ça permet de lisser la fréquentation des visiteurs. Et d'une certaine manière aussi de limiter le temps de la visite. C'est assez troublant parce que...
Et puis les queues, en théorie.
Théoriquement les queues, mais en réalité ça ne fonctionne pas tellement, puisque vous faites la queue, même quand vous avez une réservation à 15h30, ouais. Vous arrivez à 15h, vous
pour l'exposition Bacon, vous faites la queue une fois pour rentrer au Habsbourg, une deuxième fois pour rentrer dans l'exposition Bacon, alors que vous avez une invitation sur Internet.
Donc, oui, mais néanmoins, si on était dans un système... En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une appétence extraordinaire des gens pour ces grandes expositions monographiques. Je sens que le patron des Échos veut intervenir. Il y a un enthousiasme délirant. Et en réalité, vous perdez moins de temps à finalement avoir une réservation et à faire deux fois la queue que si vous veniez tous les jours et que vous faisiez la queue tous les jours et que vous abandonniez tous les jours. Donc de facto, c'est peut-être un peu plus démocratique. C'est quand même assez compliqué parce que vous rentrez en même temps que la même salve de personnes de 15h30. Donc il y a vraiment un embouteillage total. Donc moi j'ai commencé l'exposition.
Il y a aussi des gens, pense à un académicien que je ne citerai pas, qui m'a dit hier, je ne sais pas comment y aller, je ne sais pas comment aller sur Internet.
Voilà, ça c'est l'autre problématique qu'on travaille beaucoup ici dans Softpower, c'est la question de la démocratisation de ces moyens-là. Tout le monde n'a pas les moyens, les compétences, l'envie et ne se sent pas d'aller sur Internet.
Pierre Louette, PDG du groupe Les Échos et du Parisien. Vous avez vu l'expo du Louvre, une réaction sur ces deux aspects?
Oui, j'ai vu celle du Louvre, Léonard. J'ai pas vu encore malheureusement l'écho, mais j'ai lu le Connaissance des Arts qui était consacré à cet immense peintre. Non, ce que je réagissais juste pour une chose, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que ça montre quand même cette envie d'expérience dans le vrai monde. Il y a beaucoup de gens qui réservent, qui vont quand même malgré tout encore faire la queue, malgré les systèmes mis en place. Parce qu'on a envie de voir les œuvres, d'avoir un rapport devant les œuvres avec la lumière, avec la façon dont elles interagissent avec nous. Et ça, c'est fabuleux. Ça ne se passe pas dans les plateformes numériques, ça se passe dans le vrai monde.
Bah, c'est bien. On pourrait ne pas être aussi élogieux de l'exposition, à propos de l'exposition Bacon au Centre Pompidou, qui elle manque un peu d'explication, est trop partielle hein, pour qu'on comprenne tout à fait l'œuvre présentée, l'œuvre donc de Bacon, pourtant œuvre cruciale, torturée, complexe, comme le sont la plupart de ses tableaux. Un peu embrouillée cette exposition pour décrypter le lien entre son œuvre et la littérature. Les lectures de textes ne fonctionnent pas, hein, la littérature ça se lit, mais ça s'écoute pas facilement, surtout dans des sortes de bocaux hein, où on est enfermé, bruyant et surpeuplé. La scénographie et la signalétique sont assez moyennes et en plus il faut réserver, on l'a dit, en ligne et quand même faire deux fois la queue. Donc tout ça est un peu compliqué. Malgré tout, on peut conclure sur quelle richesse d'exposition cet automne à Paris.
Je crois qu'on peut effectivement conclure là-dessus et on peut aussi conclure en disant que c'est assez beau parce qu'à la fois il y a de la richesse et à la fois il y a une appétence. Et cette appétence, comme vous le disiez, ne s'épuise pas. Et cette appétence est justifiée parce que les couleurs du Gréco, par exemple, la lumière, c'est impossible d'imaginer la lumière incroyable que produisent ces œuvres dans la réalité. Et vous avez beau avoir quatre personnes qui prennent des selfies devant vous, ça reste absolument renversant.
Ils sont insaisissables en général et en particulier en ligne.
Et alors, comme on est en vacances scolaires jusqu'au 4 novembre, pour ceux qui sont à Paris ou qui viendraient à Paris cette semaine, une recommandation supplémentaire, encore une, Les Fourberies de Scapin, là c'est du théâtre à la Comédie Française. La pièce de Molière est mise en scène par Denis Podalydès et c'est un véritable régal. Coup de bâton à répétition, orgueil et préjugés, paternalisme étroit et belle perfidie de Scapin, un fourbe, comme il se doit. La pièce est totalement revisitée pour ceux qui s'y sont ennuyés, comme moi, au collège. C'est l'occasion de la revoir moderniser et enfin, enfin de l'aimer. Les avocats, au passage, en prennent pour leur grade. C'est bien fait pour eux. Mise en scène remarquable donc. Celui qui est encore plus remarquable, c'est Benjamin Laverne dans le rôle de Scapin, où il est tout simplement exceptionnel. Un petit Denis Podalydès en devenir. Signalons aussi le Géronte, joué par Didier Sandre, pensionnaire de la Comédie Française, magnifique dans ce rôle. Seul le décor est un peu décevant, mais ça ne suffit pas à ce que l'on boude notre plaisir. Les Fourberies de Scapin, c'est jusqu'au 2 février 2020 à la Comédie Française.